With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est le rendez-vous tech, on est en janvier 2022, c'est l'épisode numéro 442, on va vous parler du Digital Services Act, on va faire un petit tour par Amazon et ses boutiques de vêtements, les lunettes de réalité augmentée de Google et peut-être même un petit peu de crypto et de NFT et remettre tout ça en question. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, d'autant plus que j'ai avec moi pour cette émission bien fournie Jérôme Marin, qui est de retour parmi, j'allais dire les vivants,
c'est un peu sombre quand même.
Ça va, ça n'a pas été trop dur la période Covidée ?
Non, ça a été, j'étais un peu fatigué, mais là ça va mieux, donc principal, bon. C'est d'être en forme.
Très bien, on est content que tu puisses te joindre à nous. Tu as pu continuer la newsletter pendant la période des vacances quand même ?
Non, j'ai arrêté quelques jours parce que j'étais vraiment trop fatigué pour pouvoir travailler.
J'ai
une petite fille à s'occuper qui était avec l'école fermée, donc voilà.
Oui, je comprends tout à fait, mais maintenant elle est revenue, c'est ça ?
Ça y est, depuis hier.
Très bien. La newsletter Tech Café, Café Tech plutôt, que vous pouvez retrouver notamment en allant vous regarder le compte Twitter Jérôme Marin SF de Jérôme. On en dira peut-être un petit mot tout à l'heure. En attendant, je voudrais aussi vous parler des gens que j'aime et les gens que j'aime. Bon, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a Jérôme et les autres co-animateurs des émissions que je fais, bien sûr. Mais il y a aussi et surtout des gens comme Doumbis, Loïc Lacombe, Toto Larico, Lionel Aubernon, Manu, Alexandre Rafalovitch, Salvi Photo, Uréakin, Julien Anthony, Octave, qui sont les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Un grand, grand merci à vous tous et merci aussi aux producteurs comme Stéphane Grégory Sata et Franck Matignon. On vous remercie tous les mois et on remercie tous les patriotes. On en redira un tout petit mot en milieu d'émission. Et puis aussi, si vous êtes patriote, vous aurez droit à l'after show. Je me dis que pour l'after show aujourd'hui, on va peut-être parler de comment on fait nos veilles tech. Moi, je vous en parle de temps en temps et je me suis dit que peut-être certains auditeurs auraient des idées intéressantes sur la manière dont ils font leur veille tech, en dehors du fait d'écouter le rendez-vous tech, bien sûr. Donc, si vous êtes patriote au niveau 2, vous pouvez prendre part à cette discussion. Là, on est en live sur Twitch, bien sûr, comme tous les mardis midi. Et on pourra avoir cette diffusion dans le flux privé des patriotes. Donc, tous les patriotes pourront l'écouter. Ma veille tech, c'est toi, Patrick. J'espère que vous aurez d'autres sources aussi, mais peut-être pas. Peut-être que ça sera la seule réponse et que ça flattera mon ego. Jérôme, j'ai fait une bêtise aujourd'hui en me réveillant.
J'ai vu ça.
Tu as vu ça? C'était une bêtise publique, en fait. Je me suis réveillé et j'ai tweeté un truc sur les NFT. C'était, je crois, pas une bonne idée. J'ai passé une matinée très agitée. Je voulais qu'on parle du Digital Services Act, mais ma matinée a été tellement chamboulée. Bien sûr, on va en parler dans un moment parce que c'est une législation qui est très importante pour le monde numérique, une législation au niveau européen. Mais avant ça, je me suis dit qu'on allait parler un tout petit peu de Bitcoin et de crypto et de blockchain et de NFT. Pas forcément comme on le fait régulièrement. Je sais qu'il y a plein de gens qui en ont un petit peu marre qu'on parle de ça tout le temps. L'idée, c'est pas de redire ce qu'on a déjà dit. Il y avait des sujets sur les cryptos et les NFT de toute façon, parce qu'il y a des trucs comme Opera qui est en train de lancer un navigateur crypto qui va permettre d'accéder aux sites décentralisés, d'interagir avec les cryptos et les NFT et tout ça. Meta, Facebook serait en train de travailler à l'intégration des NFT dans Facebook. Twitter autorise les gens à utiliser des NFT comme photos de profil. Il y a aussi d'ailleurs ce truc qu'on pourrait évoquer, le marché des crypto-monnaies s'est effondré ces dernières, ces dernières semaines. D'une manière générale, les crypto-monnaies sont, on va dire, à la moitié de leur valeur la plus haute de leur histoire. Donc, c'est une chute hyper importante. Le Bitcoin, par exemple, est à 33 000 dollars aujourd'hui, alors qu'au plus haut, il était autour de 60 000.
69 même.
69, ouais, en dessous de la moitié. Le Salvador, par exemple, je pense qu'ils sont un petit peu dans l'embarras en ce moment, mais ça pourra peut-être remonter, et c'est dû à des questions de taux d'intérêt qui changent, des valeurs d'investissement qui sont plus ou moins intéressantes, parce que le Bitcoin, aujourd'hui en tout cas, n'est guère, et les crypto-monnaies en général, sont plutôt des valeurs d'investissement, ou plutôt de mise de côté d'argent, donc évidemment c'est une valeur comme une autre, si d'autres deviennent plus ou moins intéressantes, bah, ça affecte son cours. Mais ce qui s'est passé... c'est que, pour moi, hein, personnellement, c'est ça qui compte au final, c'est que le fait que Twitter permette aux possesseurs de NFT d'utiliser leur NFT, donc une image, hein, comme image de profil, a un petit peu explosé sur Twitter. Et donc, c'est tout bête. Hein. Si vous avez acheté un NFT, parfois très cher, peut-être trop cher, et ben vous pouvez... à l'utiliser comme image de profil de Twitter et votre image sera plus un cercle mais un hexagone. Donc c'est un petit peu genre regardez-moi, je suis spécial, j'ai un NFT et je suis sur Twitter. Il faut avoir l'abonnement Twitter Blue, si je ne m'abuse, qui est disponible qu'aux États-Unis. Mais donc j'ai vu ça, évidemment, beaucoup de réactions moqueuses, beaucoup de gens qui en ont profité pour tomber sur les NFT en général. Et moi, ce qui m'a marqué, ce que j'ai peut-être pas très bien exprimé sur Twitter, et je suis un petit peu tombé dans le piège du post un petit peu troll qui ensuite dérape, parce que tout le monde est énervé et tout le monde se met à crier, c'est que beaucoup de gens se moquent de l'idée de dépenser de l'argent dans les NFT. Et le message que j'ai voulu faire passer en trollant un petit peu, c'était... s'il y a certaines personnes qui sont contentes de dépenser de l'argent là-dedans... la valeur d'une image GIF ou ce que c'est, d'un GIF, d'un JPEG ou d'un PNG, c'est pas la valeur intrinsèque de la chose, qui est évidemment nulle. De la même manière que la valeur d'une basket de marque, d'une Nike ou d'un sac Gucci, c'est ce que je disais dans le tweet, c'est pas la valeur intrinsèque de la matière et de l'utilité de l'objet. Il y a la question de la marque, il y a la question de l'envie qu'on en a. Et puis, si on a envie de se faire plaisir en payant plus cher quelque chose qui, objectivement, n'a pas cette valeur financière, monétaire, eh ben, c'est le problème de chacun. Pourquoi c'est chacun qui va décider si il ou elle veut acheter ce truc. Et si ça vous fait plaisir, la valeur du truc, c'est le plaisir que ça vous fait. Et donc, intrinsèquement, ça a une certaine valeur, même si elle n'est pas tangible, cette valeur. Et donc, bon, je voulais évidemment résumer tout ça en un tweet, c'était pas facile. En plus, ça amène derrière tout le bagage de la crypto-monnaie, les problèmes des crypto-monnaies, tous les problèmes des blockchains, etc. Et ça a évidemment dérapé, y a des gens qui ont commencé à s'énerver, moi je me suis un petit peu énervé en retour, enfin bref, tout ça, ça s'est calmé. Et on a fini par en tirer des discussions intéressantes, et un des éléments de discussion qui m'a paru les plus intéressants de toute la discussion, c'était cette idée que, alors il y a des gens qui sont très très énervés, et d'une manière générale, il y a des gens qui prennent des positions très fortes sur... l'ensemble de ces technologies sans vraiment les comprendre parce que c'est dans l'air du temps de dire « Ah, bah, les cryptos, c'est pourri, énergivore, et en plus, ça sert à rien, et en plus, bon... » Ce qui sont des arguments tout à fait compréhensibles. Clairement, l'un des gros problèmes de cet univers, c'est l'énergie que ça consomme. Dans un contexte où la sauvegarde de l'environnement est primordiale, évidemment que ça compte. L'utilité n'est pas encore prouvée. Mais donc, il y a des gens qui, sans comprendre les technologies, vont condamner tout ça de but en blanc. Et se sentir obligé d'avoir une idée là-dessus, ce qui est un autre problème dont on pourrait, dont on pourrait parler par ailleurs. Mais il y a aussi des gens qui sont assez raisonnables et dont l'argument était « Ok, on peut être ouvert d'esprit. » Parce que moi, ce que je disais, c'est ces technologies, et c'est ce que je dis souvent dans l'émission, ces technologies sont intéressantes au niveau technologique, au niveau mathématique, et peut-être que ça donnera un jour quelque chose, une chose à laquelle on ne pense pas aujourd'hui. De la même manière que à l'avènement du web, on ne pouvait pas imaginer ce que deviendrait le web aujourd'hui. À l'avènement d'Internet, on ne pouvait pas imaginer tous les services que ça rendrait, les problèmes que ça pose aussi. Mais, donc, il y a des choses peut-être qui vont être construites sur la base de ces technologies qui sont mathématiquement, cryptographiquement et technologiquement intéressantes. Peut-être que ça va arriver et on ne saura pas, personne ne sait, ni les experts du domaine, ni les gens qui les critiquent, personne ne sait ce que ça pourra donner. Et donc, certains me disent... Ok, soyons verts, mais là, la blockchain et les crypto-monnaies, ça existe depuis 10-15 ans maintenant, ça commence à faire longtemps, et ça n'a toujours rien donné d'utile. Peut-être qu'on pourrait disputer l'idée que ça n'a rien donné d'utile. Je crois qu'on pourra tomber d'accord sur le fait que le potentiel révolutionnaire peine à se faire voir. Ou en tout cas, les aspects positifs ou intéressants ne sont pas évidents. Ça, sur ce point, je pense que les gens raisonnables tomberont d'accord, même si je suis sûr qu'il y a des gens qui sont des experts et qui te diront « oui, il y a tel et tel élément qui se passe, les choses sont en train d'évoluer ». Mais bon, ça fait quand même 10-15 ans. Donc, après ce long monologue, je me retourne vers Jérôme. Et la question que j'ai envie de te poser, Jérôme, qui est pour moi la question vraiment intéressante, vraiment un petit peu nouvelle dans tout ce débat dont on parle régulièrement, est-ce qu'au bout de 10 ou 15 ans, on a le droit, ou même peut-être est-ce qu'il est temps de déclarer la technologie blockchain, c'était peut-être intéressant, mais au bout de 15 ans, si ça n'a rien donné, et vu tous les problèmes que ça pose, peut-être qu'il est temps de déclarer de manière sans équivoque que bah non, c'est pas utile, ça sert à rien, ça pose que des problèmes, donc c'est une technologie qu'il faudrait peut-être, je sais pas si la conclusion serait qu'il faudrait évacuer ou je sais pas quoi, mais déclarer qu'elle est mauvaise slash inutile slash néfaste. Jérôme, tu as 2 heures.
Tu me mets en position délicate. Non, mais après, moi, je pense qu'il faut quand même dissocier tout le côté crypto-monnaie et le côté blockchain. C'est, la blockchain, c'est la technologie qui permet aux cryptos d'exister. Alors, moi, je ne rentre pas dans le débat, est-ce que les cryptos, c'est bien, est-ce que les NFT, c'est bien. Moi, personnellement, j'en ai pas et ça ne m'intéresse pas forcément. Après, le côté sur la blockchain, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, en tout cas, je pense par exemple à IBM, IBM aujourd'hui communique énormément sur la blockchain parce qu'il y a des usages concrets sur la traçabilité, par exemple, des aliments. Aujourd'hui, avec la blockchain, on est capable ou on pourrait être capable de savoir exactement d'où vient tel aliment qu'une personne a mangé qui n'était pas bon et qui a... Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont à faire. C'est vrai qu'on a peut-être un peu du mal à voir, nous, en tant que journalistes ou en tant que grand public, les applications un peu concrètes de cette technologie. Ça ne veut pas dire que la technologie n'est pas bonne. Après, le fait qu'elle soit utilisée pour le Bitcoin... pour les cryptos et que ça engendre d'autres problèmes, ça c'est une évidence, il ne faut pas le nier, mais ça ne veut pas dire que la technologie sous-jacente, elle, est mauvaise en fait.
C'est un petit peu mon argument, et vraiment au niveau mathématique, la technologie est assez révolutionnaire, enfin, c'est un petit peu comme le chiffrement en fait. C'est un truc auquel personne n'avait pensé avant et qui change la manière de penser à ce genre de choses, mais moi aussi, j'ai pris l'exemple de la traçabilité des choses, dans le transport notamment, que ce soit les aliments ou le transport tout court, ou les médicaments, tout ça. Mais IBM, ils ont leur projet de blockchain depuis quoi, 5 ans? Et bon, c'est peut-être très cool de pouvoir tracer les aliments, mais est-ce que c'est le seul exemple de truc où on se dit « ouais, ok, bon, là, ça peut être utile ». Parce que les promesses de tout ça, c'est quand même décentralisation, répartition des pouvoirs, des pouvoirs et des richesses. Enfin, il y a, tu vois, donner accès à n'importe qui à des outils ou des moyens qui étaient réservés à certains qui avaient justement déjà des moyens. Si de tout ça ne ressort que... Bah, c'est une sorte de moyen de liste de, qui permet de savoir de manière infalsifiable comment ont voyagé les aliments. Ok, c'est peut-être cool, mais est-ce que c'est tout ça pour ça, quoi ? C'est l'exemple que je donne aussi, hein, souvent, celui-là, mais est-ce que c'est pas le seul ?
Mais je pense que sinon, il y a d'autres choses. Il y a les smart contracts, par exemple, aussi. Moi, je pense que, en fait, le débat sur la blockchain, enfin, on a dissocié dans le. Parce qu'on parle tellement des cryptos, parce que la blockchain, les cryptos, c'est vraiment une petite partie de la blockchain, finalement. C'est la partie visible, c'est la partie dont tout le monde parle. Et c'est la partie qui fait les gros titres parce qu'il y a des sommes qui s'envolent ou que ça se casse la gueule. Mais la blockchain en tant que telle, la technologie, alors forcément, nous, c'est assez technique en fait. Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir tous les jours, mais en termes de logiciel qui, un jour, sera partout dans les magasins, qui sera partout chez les assureurs ou les choses comme ça, moi, je pense que ça arrivera, en fait. Aujourd'hui, c'est plus une question est-ce que, de bâtir la technologie, d'avoir une puissance de calcul suffisante et puis d'avoir une adoption aussi. C'est toujours lent, en fait, d'adopter des nouvelles technologies dans des entreprises sur des choses assez comme ça. Donc, moi, je pense qu'il faut... Enfin, les NFT, les cryptos, c'est d'un côté, la blockchain, c'est de l'autre, en fait. Et c'est peut-être pas la... Pas forcément les associer, en fait.
Je suis assez d'accord. Et c'est pour ça que je disais, les gens mélangent tout. Mais honnêtement, je ne suis pas un méga expert de la blockchain, mais suivre la tech, c'est mon métier. J'ai du mal après, parce que là encore, la blockchain, si je suis complètement honnête, la blockchain existe depuis presque 15 ans, bah, j'ai du mal à en voir les applications concrètes, utiles, au-delà de cette idée de tracer les aliments. Et peut-être que celle-là, elle est super utile. Mais quand quelqu'un me dit, OK, gardons un esprit ouvert, mais est-ce qu'au bout de 15 ans, il n'est pas temps de se dire « je ne suis pas si sûr que ça », j'avoue que je suis bien obligé, parce que j'ai cet esprit ouvert en beaucoup de choses, en presque tout, j'espère, je suis bien obligé de me dire « bah ouais, au bout de 15 ans... » Et en même temps, OK, je vais me faire un tout petit poil. Mais c'est l'avocat du diable de l'avocat du diable, donc c'est un peu compliqué, mais les écrans tactiles, par exemple, ça a pris 20 ans à donner quelque chose d'intéressant. L'inception d'Internet, le DARPANET, c'était les années 70. Il y a plein de technologies qui peuvent mettre... Ce n'est pas en 6 mois ou en 1 an qu'on va avoir un résultat intéressant. Ça peut mettre 15 ans, 20 ans à arriver. Mais bon, même la blockchain, ça fait 15 ans, quoi. Donc, je ne sais pas, je m'embrouille moi-même dans mon avocat du diable. Je ne suis pas très efficace comme avocat du diable. Bon, on n'a pas de réponse, hein, Jérôme. Bon, on a échoué à avoir une conclusion. C'est pour ça que le débat continue. Mais ce à quoi m'aura servi cette longue discussion sur Twitter, c'est peut-être mettre un tout petit, me permettre, grâce après, au-delà des énervements et parfois des montées de ton, c'est me mettre un tout petit changement de perception du sujet avec cette question de bah ouais, ça fait quand même 15 ans, donc c'est quand, quoi. Parlons plutôt du coup du Digital Services Act, qui est un élément de législation européenne qui vise à réguler un petit peu les services numériques, hein, comme son nom l'indique, et qui englobe énormément de choses différentes. Je crois que c'est difficile de résumer ce qu'est le DSA, parce que vraiment, il y a plein d'éléments qui ont été un petit peu fourrés dans cette législation pour, je ne vais pas dire remettre au pas, mais en tout cas, mettre un petit peu d'ordre dans les services numériques dans leur ensemble. Et donc, ça touche à plein d'aspects des services numériques. Donc, je vais vous en lister quelques-uns, et puis on peut en discuter, évidemment. Ça touche, évidemment, à... La publicité ciblée, qui ne pourra plus se faire en fonction de choses comme l'orientation sexuelle ou la religion. On ne peut pas non plus suivre du tout les enfants. Donc, les mineurs ne peuvent plus être ciblés sciemment par les services de publicité. Il y a aussi des choses comme les plateformes en ligne ne peuvent pas refuser... ne peuvent pas faire en sorte que le fait de refuser de donner l'accord pour le traitement des données privées soit plus compliqué que le fait d'accorder la chose. Donc, on ne peut pas dire rendre plus compliqué le fait de dire non, n'utilisez pas mes données que le fait de dire oui, utilisez mes données. Il faut que ça soit au même niveau. Et il faut aussi, les services ne peuvent pas faire des choses comme retirer des fonctionnalités à ceux qui refusent de donner leur accord. Donc, c'est vraiment des choses assez contraignantes dans ce domaine. Il y a des choses comme l'exception pour les médias pour la modération, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre le fait de modérer les utilisateurs des plateformes sociales, notamment en retirant leur contenu, par exemple, et le fait de dire les médias, les organes de presse, eux, ils doivent pouvoir avoir une exception en ayant une protection de ce type de retrait. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on considère comme un média. Et donc, ça peut, si on dit tous les médias doivent être protégés, bah, ça favorise la diffusion d'infox, par exemple. Et donc, le compromis qu'ils ont trouvé, c'est de dire bah, les plateformes doivent prendre en compte la charte des droits, des droits fondamentaux, y compris le droit à la liberté d'information et la liberté des médias. Donc, ce n'est pas contraignant, mais ils l'ont inscrit dans la loi. C'est un petit peu difficile de trouver cet équilibre. Il y a des choses sur la traçabilité des utilisateurs que je vais laisser de côté, mais il y a aussi les dark patterns. Vous savez, les dark patterns, ce sont ces éléments d'interface qui favorisent le fait de cliquer, parfois presque inconsciemment, quelque part plutôt qu'ailleurs. Et c'est des outils que les sites utilisent pour vous orienter vers l'endroit où ils veulent que vous alliez. Par exemple, bah, vous faire en sorte que vous acceptiez de partager vos données privées plutôt que de ne pas le faire. Bon, je parle des données privées encore, mais ça ne concerne pas que ça. Ça concerne énormément d'usages et d'éléments d'interface. Puis il y a aussi la question de l'anonymat. L'un des éléments est que les utilisateurs doivent, partout où c'est raisonnablement possible, offrir les mêmes services aux utilisateurs qui veulent les utiliser de manière anonyme. Alors là encore, ce n'est pas super contraignant, mais c'est quand même une ligne directrice. Et de la même manière un petit peu que le RGPD, RGPD c'est en anglais, non ? Si, je ne sais plus. Non, c'est bien ça.
C'est en français.
C'est en français, ouais. Donc, de la même manière que le RGPD, il y a des règles un petit peu floues, mais il y a de quoi contraindre les sociétés avec, je crois, 6% d'amende, 6% de leurs revenus mondiaux maximum. 6% de leurs revenus mondiaux maximum qui pourraient être assignés en amende s'ils contreviennent à certaines des règles. Et bien sûr, certaines lois sont un petit peu vagues et on sait que les sociétés vont tirer de leur côté, évidemment. Mais encore une fois, comme le RGPD, je pense que c'est mieux d'avoir une série de lois, même un peu vagues, même un petit peu difficiles à appliquer, plutôt que le Far West comme c'est jusqu'à maintenant. Et je pense que, là encore, la comparaison avec le RGPD est valide parce que c'est un truc qui va influencer les sociétés au-delà de l'Europe et qui risque d'avoir des conséquences dans le monde. Mais Jérôme, on est au tout début, hein, enfin au tout début. Au niveau européen, c'est validé. Maintenant, il faut que ça soit implémenté dans tous les pays indépendamment.
C'est pas encore
etc.
tout à fait validé au niveau européen. Ça a été voté par le Parlement, ça doit repasser au Conseil de l'Europe, revoté par le Parlement.
Ouais, donc, mais on a un texte qui semble être dans sa forme finale.
Oui, on a franchi une étape décisive.
Ouais. Donc je te demande, est-ce que c'est un bon texte ? Est-ce que c'est une étape souhaitable ? Qu'est-ce que tu penses de ce Digital Services Act ?
Alors, à savoir si c'est un bon test, on le verra avec le temps, en fait. C'est toujours comme ça, comme tu le disais, c'est l'interprétation, c'est la façon dont c'est mis en pratique. On a vu avec le RGPD, par exemple, où l'Irlande, qui est l'autorité européenne qui surveille la plupart des plateformes Internet, parce qu'ils sont basés en Irlande, on a vu qu'ils traînaient un peu les pieds, que l'Allemagne et la France, ils n'étaient pas très contents de la façon dont ils mettent en place le RGPD, donc tout dépend de la façon dont ça sera après appliqué, mis en place. Moi, je pense que c'est globalement plutôt une bonne chose parce que voilà, on essaie de clarifier des choses et d'essayer surtout d'avoir un cadre commun aux 27 sur l'utilisation des données personnelles, c'est une étape qu'on a déjà prise, sur les contenus illégaux, sur la modération notamment, c'est les deux gros points de cette législation. Donc, C'est positif aussi parce que finalement, les 27, ils sont mis d'accord assez rapidement. Hein. Ça a été présenté en décembre 2020, donc on est à peu près un an après. Il n'y a pas eu de gros débats. On pensait que quand ça a été présenté, il y avait beaucoup de gens qui étaient très sceptiques sur la façon dont ça allait être voté et ça allait être changé. Finalement, ça n'a pas été changé. Donc, il y a vraiment une volonté, une politique qui est positive, en fait, de se dire, mais voilà, alors après, certains vont dire qu'on va trop loin et que c'est trop contraignant, il faut bien se préciser que c'est seulement les plateformes qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs qui sont concernées. Donc, c'est pas une nouvelle start-up qui va se lancer, qui va être
contrainte par ces lois, oui.
Contrainte, voilà, par ça. Donc, c'est vraiment 45 millions d'utilisateurs, c'est quand même des grosses entreprises. Donc, elles ont les moyens de faire les efforts nécessaires pour être en conformité avec ce texte. Donc moi, je pense que c'est plutôt positif. Et il faut bien souligner aussi, donc là, on parle du DSA. Il y a un deuxième acte, un deuxième volet qui s'appelle le DMA Digital Markets Act. Lui, c'est en plus un volet économique qui va changer la façon dont on pense la concurrence et on pense les monopoles en Europe à l'heure d'Internet, qui là aussi a été voté, qui est encore plus révolutionnaire pour moi en tout cas, parce qu'il va changer beaucoup de choses dans la façon dont les entreprises, les grosses entreprises, seront capables de racheter d'autres entreprises, seront capables de mettre en place telle et telle pratique avec une certaine latence, parce que jusqu'à présent, ça prend beaucoup de temps. Lorsqu'on soupçonne quelqu'un d'être anticoncurrentiel, ça prend des années et des années. Là, on va mettre en place des règles du jeu. Donc, je pense que c'est bien d'avoir des règles du jeu pour les 27 et qui définissent un cadre où tout le monde sait, voilà, où on peut... c'est plus facile d'aller lutter contre des grosses entreprises parce qu'on aura tous les mêmes règles du jeu, en fait.
Bah justement, ce DMA, moi, je t'avoue que je l'ai moins suivi. Est-ce que tu peux nous dire, dans les grandes lignes, ce qu'il propose ?
Alors, le DMA, c'est l'idée du DMA, c'est qu'aujourd'hui, quand on a, par exemple, Google, vous savez, il y a des enquêtes et des plaintes auprès de l'Union européenne. La façon dont ça marche aujourd'hui, c'est un concurrent de Google n'est pas content, va voir la Commission européenne, par exemple, Yelp, va voir la Commission européenne, dit « oui, regardez, Google, ce qu'ils font, c'est pas bien ». Il y a une enquête, donc ça prend un an ou deux. Il y a une deuxième enquête, ça reprend un an ou deux. Il y a une amende, il y a des appels, il y a la Cour de justice européenne qui est saisie. Juste pour donner un exemple, Google Shopping, ouais. L'enquête de Google Shopping, c'est 2015. La Cour de justice européenne vient juste de donner son premier verdict. Il y a un appel encore, ouais. Donc ce n'est même pas fini encore, 6 ans après. L'idée du DMA, c'est de changer ça. C'est-à-dire aujourd'hui, au lieu d'attendre qu'il y ait un comportement anticoncurrentiel, on va définir ce qui est concurrentiel et ce qui ne l'est pas. Par exemple, ce qui n'est pas concurrentiel, c'est de donner un traitement préférentiel à ses propres services. Par exemple, sur Apple, par exemple, sur iPhone, pourquoi Google Music peut être mis en application par défaut Google Maps et pas Apple Music et Apple Maps peut être mis en application par défaut et pas les autres. Pourquoi Amazon peut utiliser les données qu'elle collecte sur sa marketplace pour savoir quels sont les produits qui marchent et mettre en avant ses propres produits, ou alors comment elle peut mettre en avant les vendeurs qui utilisent son service de logistique. Voilà, il y a plein de choses comme ça en fait où on essaie de dire tout ce qui est anticoncurrentiel ou qui n'est pas juste, en tout cas, qui aujourd'hui, pour montrer que c'est anticoncurrentiel, ça prend des années, on va le définir clairement et dire voilà, ça c'est interdit désormais. Alors il y aura toujours des parades, il y aura toujours ça, mais au moins c'est un cadre où on dit voilà, il y a ça, ça, ça et ça, c'est interdit. Et donc si vous êtes un nouvel acteur, vous pouvez essayer de vous battre avec ces grosses entreprises. Oui. C'est pas facile, hein. Personne ne dit que ça va changer la face du monde du jour au lendemain, mais en tout cas, ça laisse une chance en fait.
C'est assez intéressant parce qu'aux États-Unis, on a aussi cette volonté aujourd'hui de revoir un peu la définition de ce qui est concurrence monopolistique ou déloyale à l'ère de l'Internet, à l'ère d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que les règles de la concurrence ont été établies pour un monde qui était différent et donc il est peut-être temps de les redéfinir un petit peu. Et c'est ce que font ce à quoi pensent les Américains et clairement les Européens
et
aussi.
Et clairement, là, l'exemple qu'il montre le mieux, c'est WhatsApp, en fait. WhatsApp et Instagram. Mmh. WhatsApp et Instagram, quand ils ont été rachetés par Facebook, ça a été autorisé par toutes les autorités de la concurrence parce que dans les règles actuelles, il n'y a aucune raison de le bloquer, en fait.
Parce que les règles, sauf en fait... vas-y, pardon, fini.
Les règles, aujourd'hui, ça prend... Donc, on prend un marché. Donc, par exemple, WhatsApp, Instagram... WhatsApp et Facebook, on dit, voilà, sur le marché de la messagerie, est-ce que vous avez une position dominante ? Non. À l'époque, WhatsApp et Messenger, ce n'était pas une position dominante. Il y avait d'autres services, Il y avait des SMS à l'époque. Donc, on ne le refuse pas. Et ça, c'est des règles historiques. En fait, on regarde la position du marché actuel pour faire pour prendre une décision. L'idée, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on va essayer de se projeter sur ce que ça peut utiliser, sur ce que ça peut faire. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, Facebook qui veut racheter tous les studios de réalité virtuelle, aujourd'hui, les autorités de la concurrence, elles ne peuvent pas dire non. Si on passe dans cette idée, est-ce que demain, Facebook, parce qu'ils ont acheté toutes les entreprises de réalité virtuelle aujourd'hui, va devenir un acteur ultra dominant, là, on va pouvoir bloquer. Et donc, en fait, c'est un changement de règles, un changement de... Et il faut que ce soit mis en place, en fait, parce que c'est dans les lois, il y a des textes et...
L'idée, effectivement, est plus de regarder, est-ce que vous êtes en train de racheter un concurrent futur ? Un potentiel concurrent futur pour le faire disparaître ou l'absorber avant même qu'il n'ait une chance de devenir un concurrent. Je crois que clairement, ce genre de philosophie s'applique très bien à ce qu'on connaît aujourd'hui. J'ai une toute petite pointe d'avocat du diablerie qui se demande si c'est pas établir des règles pour une situation très spécifique qu'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce que ça voudra dire que ça rendra certaines choses un petit peu plus compliquées à l'avenir ? Bon, je ne vais pas élaborer, mais c'est clairement un tout petit élément. Dans l'ensemble, je pense que c'est une meilleure approche que ce qu'on a aujourd'hui. Donc,
c'est ce que certains disent sur le RGPD, par exemple. Ils disent que le RGPD, c'est un frein pour les Européens, pour les entreprises européennes, parce que c'est tellement contraignant que on peut pas se battre sur le même pied d'égalité.
Ouais, sur ces histoires de start-up, par exemple, l'une des critiques qu'on pourrait donner et que feraient certains VC, j'en suis sûr, c'est mais si on rend plus difficile le rachat d'une petite start-up par un gros acteur, ça va enlever de la motivation aux gens de faire des start-up. Parce que la plupart des start-up se font racheter et c'est comme ça qu'ils font leur sortie. On pourrait opposer à cette idée aussi le fait que, si vous ne faites pas racheter, peut-être que vous pourrez être, vous, demain, l'un de ces gros acteurs. Alors, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, mais ça peut quand même être une motivation aussi. Enfin bref, c'est une discussion intéressante. Je crois que ce qui est clair, c'est que le changement de point de vue sur tout ça, enfin, même pas que c'est pas une question de point de vue, c'est que les règles qu'on a aujourd'hui ont été héritées, comme je le disais tout à l'heure, d'un monde qui a changé, donc elles sont plus tout à fait adaptées. Et je crois que dans l'ensemble, j'ai pas vu, au-delà de ce qu'on évoquait et ce qu'on peut dire qui est assez classique, j'ai pas vu de grosses critiques sévères, encore moins que pour le RGPD, par exemple. Ce qui me surprend, est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait plutôt un travail correct ? Est-ce qu'ils sont dans l'air du temps et qu'ils ont fait des choses qu'on attendait, qu'on voyait venir ? Je suis surpris de ne pas voir plus de critiques et pas plus de bruit autour de ces lois. Bon, elles ne sont pas encore votées en finale, comme tu le disais, et puis après, il faudra les implémenter dans les différents pays, mais je suis un peu surpris.
Non, c'est vrai qu'il y a eu du lobbying, bien sûr, à Bruxelles, évidemment. Mais après, je pense qu'ils le voyaient venir aussi. Enfin, l'Europe a été assez. Le processus était assez clair, quoi. Ça fait des années qu'on sait que ça va arriver. Donc, ils ont eu le temps de s'habituer. Ils sont allés chercher sur des petits détails. Toujours, c'est l'application, en fait, qui va faire la différence, en fait. Ouais. Donc, c'est peut-être là où ils vont plus se battre que sur le texte en lui-même.
c'est peut-être quand ça va être implémenté dans les différents pays où tout à coup, ça va faire des scandales. Écoutez, on a aussi Amazon qui fait des magasins de vêtements dont je voudrais vous parler. On a Google qui fait des casques de réalité virtuelle, enfin augmentée, le Galaxy S22 qui a été préannoncé. Et je voudrais aussi vous annoncer, si vous ne le savez pas encore, que, alors complètement révolutionnaire, vous pouvez soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Rendez-vous compte, pas de NFT. Pas de crypto, pas de blockchain. Vous pouvez juste aller sur un site web, centraliser, sécuriser votre compte, donner votre moyen de paiement et soutenir le Rendez-vous Tech. Vous n'avez pas une DAO qui va vous permettre de voter sur les sujets évoqués dans l'émission. Vous n'avez pas un NFT qui va vous permettre de mettre ma tête comme photo de profil sur Twitter, sur votre compte. Rien de tout ça. Très simple, vous voulez soutenir une émission que vous appréciez et vous pouvez le faire facilement. Vous allez sur patreon.com/rdvtech, vous soutenez pour une somme absolument modique, un petit euro, bon, vous pouvez mettre plus si vous le voulez, mais un petit euro par semaine, par épisode. Si cet épisode vaut bien un euro, vous allez sur patreon.com/rdvtech, en plus le lien est dans les notes de l'émission, et c'est grâce à vous, oui, vous là, à qui je parle, qui êtes dans le métro, dans la voiture, en pyjama devant la chaîne Twitch, eh bien, c'est grâce à vous que l'émission existe. Donc, un grand merci à vous tous et toutes.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Amazon va lancer une boutique de mode. Est-ce une blague? Alors, c'est pas la première fois qu'Amazon fait une boutique physique. Hein. On connaît notamment Amazon Now, ou c'est Amazon Now? Oui, je crois, qui est une boutique.
Amazon
où
Go.
Y a pas de,
Go. Amazon Go.
Go. C'était presque la même chose. Amazon Plus, Amazon Max. Amazon Go, tout à fait. La boutique où il y a plein de caméras et pas de caissier ou de caissière. Là, c'est Amazon Style. Et c'est hyper malin ce qu'ils font. Ils font une boutique où on va acheter des vêtements. Et en gros, la boutique, c'est un petit peu un showroom numérique, en ce sens que un des exemples que donne l'article de Geekwire, que j'ai trouvé parlant, vous pouvez aller dans la salle, d'essai, comment on dit ça en français ? The changing room.
Cabine d'essayage.
Voilà, la cabine d'essayage, j'en perds mon français. La cabine d'essayage, et vous pouvez commander d'autres vêtements à partir de votre smartphone ou même sur l'écran qui est dans la cabine d'essayage pour, si vous voulez, essayer d'autres choses, si ça vous va, si ça ne vous va pas, etc. Je trouve ça hyper malin parce qu'en fait, le truc qui est le plus compliqué à essayer quand on est dans une boutique en ligne chez Amazon, bah, c'est les vêtements. On doit les commander, les essayer, les renvoyer. On veut pas, enfin, c'est pas pratique, c'est pas la meilleure expérience possible. Donc, s'il y a un truc à faire, à transformer en boutique physique, c'est bien un truc de vêtements. Et savoir amener leur expertise numérique avec les apps et les écrans et, la practicisation, la patriquisation, hein, la practification, c'est ça le terme français, de l'expérience, on n'a même pas besoin de bouger de la cabine d'essayage et on appuie, il y a les trucs qui arrivent, eh ben, c'est plutôt malin, parce que en plus, ça leur donne plein de données sur ce qu'on n'aime pas, évidemment. Est-ce que tu irais utiliser Amazon Style pour choisir tes vêtements, Jérôme ?
Je crois que je ne suis pas forcément la cible particulière. Mais non, c'est intéressant. Après, Alibaba le fait déjà en Chine. Hein. C'est ce concept de... Alors, pas aussi poussé qu'Amazon, mais ce concept de miroir, en fait, où on peut essayer des habits. Non, après, comme tu le disais, Amazon, ils ont... il faut bien voir qu'Amazon, c'est... Donc, ils sont arrivés en... On va tout mettre en ligne, en fait. Et ils se rendent compte, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qu'on achetait moins en ligne ou que c'était moins facile d'acheter en ligne. Les habits, par exemple. Il y a un autre projet qu'ils ont, mais alors il y a beaucoup de rumeurs, mais ça n'a jamais été fait, c'était l'électroménager. Voilà, l'électroménager, c'est quand même plus difficile de l'acheter en ligne. Donc, il y avait ce projet d'avoir des chaînes, des magasins d'électroménager. On le sait, ils ont, et ça rentre vraiment dans la philosophie de l'entreprise d'Amazon, c'est de dire on est une entreprise technologique, on n'est pas un e-commerçant. Et donc voilà, on met en avant notre technologie pour révolutionner le commerce. Et l'une des façons, c'est d'avoir cette boutique physique pour utiliser vos habits, pour essayer ces habits, commander ces habits.
Pour de vrai, voilà.
Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils vont vraiment pousser? Parce que là, ils ont lancé un magasin, je crois, à Los Angeles. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont vraiment pousser? Est-ce que c'est plus un peu du marketing et de la communication? Faut voir, par exemple, ils ont ouvert un salon de coiffure aussi à Londres.
Ça, je ne savais pas. Un salon de coiffure.
Voilà, ils ont ouvert un salon de coiffure à Londres où on peut acheter des produits. Enfin, je veux dire, c'est souvent des choses un peu plus de la com, en fait, que des vrais business.
C'est possible. Amazon Go, ils ont ouvert plusieurs boutiques, mais je crois qu'il doit y en avoir quoi, 4-5, une dizaine, quoi. Mais
je crois qu'il y en a un peu plus quand même aux États-Unis.
Ah, c'est vrai? Ça a commencé
à il me semble que... Ouais. Alors, et ça, là aussi, c'est pareil. À chaque fois, il y a des rumeurs qui vont vraiment avancer sur ça et vraiment se développer les magasins physiques. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a du mal à le voir. Ils ont racheté la chaîne de magasins Whole Foods, qui est une chaîne un peu branchée aux États-Unis. Donc, ils ont quand même... un peu, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des sur le côté commerce alimentaire, en fait, sur les courses, ils ont quand même déjà des choses, ils ont quand même avancé. Sur le reste, on ne sait pas, alors, c'est pas trop. Moi, j'attends de voir, en fait. Je vois bien le côté, on fait parler de nous.
Ce que je dirais, c'est que, bon, c'est qu'une boutique, évidemment, il faut commencer quelque part, mais j'ai l'impression que c'est plus logique pour eux. S'il y a un truc qu'ils devaient faire en physique, ça serait peut-être les vêtements. Mais d'un autre côté, il y a les suggestions de vêtements dans la boutique. On voit sur les images qu'ils ont fournies à la presse. L'un des ensembles qu'ils proposent, c'est The Influencer. Et là, tu te dis tout de suite, il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est comment t'habiller comme un influenceur. Ok, bon, peut-être que c'était une mauvaise idée, en fait. Il y a une autre idée après, qui est intéressante. Oui, pardon, vas-y.
Juste, il faut bien voir qu'en fait, on ne le sait pas forcément, mais Amazon, c'est l'un des plus gros vendeurs de vêtements au monde.
Bien sûr, oui.
Aux États-Unis. Et en fait, moi, je pense que ça, c'est plus vraiment pour mettre un peu en avant, pour faire parler d'eux, et dire, ah, on peut acheter des vêtements sur Amazon. Mmh. Ça, c'est, je pense que c'est plus ça qu'il y a un vrai concept business. Après, peut-être que ça va changer, hein, mais... Amazon, c'est quand même beaucoup déjà, on achète beaucoup de vêtements. Alors après, c'est souvent des chaussettes, des caleçons, des t-shirts basiques. C'est pas une robe à 400 euros, par exemple. Enfin, je sais pas si ça coûte 400 euros une robe d'ailleurs, mais.
Voilà. Ouais, je suis sûr qu'il y en a qui y a tous les prix, oui. Ouais, bah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, on verra si c'est du marketing ou s'ils vont. On aura des Amazon Style partout dans le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'ils essayent des choses. Hein. Ça, on ne peut pas leur enlever. Google, ils essayent aussi beaucoup de choses. D'ailleurs, ils ont fermé YouTube Originals. On en parlait la semaine dernière. Est-ce que Google est encore en train de faire vraiment des choses intéressantes? Bon, YouTube Originals, clairement, ils ont fermé les portes. Ils sont en train de développer un casque de réalité augmentée. Alors, on se souvient des casques de, enfin des Google Glass qui ont connu un destin un peu funeste. Mais là, selon des rumeurs ou plutôt des sources sourcées de The Verge, le projet Iris, c'est un projet de casque de réalité augmentée et réalité virtuelle qui serait un petit peu en prévu pour entrer en concurrence avec en fait les casques de un peu tous les autres GAFAM. Peut-être qu'ils se sentaient un petit peu isolés sans avoir un vrai casque de réalité augmentée. On sait que Microsoft qui travaille sur HoloLens, ils ont d'autres choses aussi. Apple a son casque de réalité augmentée dont on parle depuis longtemps. Meta, ils ont fait tout un ramdam sur le fait qu'il s'appelle Meta et ils ont Oculus. Enfin, bref, tout le monde est en train de travailler là-dessus et Google n'est pas en reste. Alors, pour le moment, le projet, c'est... Enfin, la vision, c'est une sortie en 2024. Hein. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Ce qui est intéressant techniquement, ça ressemblerait à des lunettes de ski, enfin, un casque de ski, des lunettes de ski, voilà, qui auraient les images streamées depuis un serveur, un centre de calcul plus loin. Donc, ce n'est pas qu'on va rendre les images localement sur votre téléphone ou sur l'appareil lui-même. Ça serait streamé depuis, comme du streaming de jeux vidéo ou ce genre de choses. Alors, la technologie fonctionne pas mal. Fonctionne pas mal en mobilité, je ne sais pas. Mais même pour la réalité augmentée et réalité virtuelle, moi, il m'est arrivé d'utiliser mon casque de réalité virtuelle avec un serveur déporté sur, à l'époque où j'utilisais le Shadow PC, et ça fonctionnait pas mal. Donc la latence, qui est une grosse préoccupation pour les casques de réalité augmentée ou virtuelle, peut fonctionner, surtout si on voit l'horizon 2024, dans 4 ans, peut-être que la 5G sera plus répandue, etc. etc. Bon, est-ce que c'est Google qui veut « moi aussi, hey, monsieur, moi aussi j'ai un casque » ou est-ce que c'est un projet sérieux, réel, intéressant? C'est encore que des rumeurs, mais qu'est-ce que tu en penses, Jérôme?
Bon, après, qui travaille sur la réalité augmentée, ce n'est pas forcément une surprise. Hein. On sait que c'est un peu la prochaine frontière. Et il faut, enfin, quand on est Google, on se doit travailler sur les prochaines technologies, même si finalement, ça ne donnera rien. En fait. Voilà, ils sont tellement importants qu'ils ne peuvent pas ne pas travailler sur quelque chose qui potentiellement peut être très gros. Ils ont beaucoup fait sur la réalité virtuelle, avec les casques cardboard notamment.
Ouais. Ils avaient pas mal de expérience. Hein. Tout a été abandonné, hein, comme souvent chez Google.
Bah, mais c'est typique de Google. En fait. Google, ouais. Voilà, ils vont sur un domaine, ils avancent quelques années, ils essaient de voir s'il y a un projet, il y a un business à faire, et puis ils abandonnent, et peuvent abandonner très très rapidement. C'est aussi le problème des fois de Google, c'est qu'ils abandonnent du jour au lendemain, ils arrêtent tout. Quoi. Ouais. Donc moi, je ne suis pas étonné. Après, comme on parlait de la blockchain tout à l'heure, on verra si quelles sont les applications en fait, de la réalité augmentée. Moi, je trouve qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de hype autour de ça. J'attends de voir, quoi. J'attends de voir où le moment où on se baladera tous avec des casques sur la tête pour travailler ou pour parler à nos parents. Enfin, je sais pas.
C'est pas pour tout de suite. Il y a un truc qui est intéressant avec, avec Google, que les autres n'ont pas, c'est le projet Starline. Et visiblement, la division qui s'occupe du casque de réalité augmentée est aux mains de la même personne. Le projet Starline, c'est leur conférence, salle de conférence en fait, virtuelle, ultra haute résolution, genre qui reproduit presque de manière ultra réaliste la personne dans un petit peu dans une fenêtre que vous regardez en face de laquelle vous êtes assis. Donc vous avez l'impression de voir vraiment la personne et l'expérience est différente. Et la réalité, et on parle beaucoup de photoréalisme depuis la fameuse conférence de Zuckerberg, et c'est des trucs qui sont à un horizon 5-10 ans, hein, c'est pas ce qui existe aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça intéressant que les deux projets soient un petit peu et des passerelles, le projet Starline et leur projet Iris de réalité augmentée. Bon.
On verra ce que ça donne, c'est vrai.
On verra. Samsung, ça aussi, c'est un truc qu'on va voir. En février, on va avoir l'annonce du téléphone Samsung Galaxy S22. Il arrive très bientôt et il a déjà été pré-annoncé et les précommandes sont ouvertes. C'est pas la première fois. Hein. Samsung a déjà fait ça par le passé. Ils font des pré-annonces de leurs produits et ils permettent aux gens de précommander un truc qui n'a pas encore été annoncé. Alors, ce qu'ils disent sur le S22, c'est que ça sera le téléphone de série S le plus remarquable jamais créé. OK. Et il donne quand même des indices assez clairs sur le fait que, en fait, et c'est ça qui est intéressant pour les auditeurs qui sont sur Android ou sur Galaxy, c'est un téléphone dont la version Ultra va vraiment amener ce qu'on appréciait de la série Note. En gros, le stylet sera intégré au téléphone, au moins pour sa version Ultra, et donc ça sera un petit peu le Galaxy S et le Note qui seront fusionnés en un seul produit en fonction de la déclinaison de l'appareil. Donc, en gros, il y aura un stylet dans le Note au moins Ultra. Bon, on attendra.
Dans le S Ultra.
Oui,
dans
c'est
le,
ça.
Dans le S.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit. Le S, c'est le S22 Note. Ultra. Quoi.
En fait, il faut rappeler aussi que le Note, je crois qu'il n'y en a pas eu cette année. Ils ont décalé tout la à sortie à cause d'un problème de composants, donc peut-être que est-ce qu'il y a une fusion entre les deux entre les deux marques.
Ah ben on pense que ouais. Tu veux dire que ça serait un Galaxy Note Galaxy S Note peut-être. C'est pas plus con que Galaxy S Ultra, hein. Donc peut-être. Quoi d'autre? Le Pays-Bas, on en parlait la semaine dernière. Ils sont pas contents avec ce que fait Apple, la manière dont Apple implémente l'autorisation aux applications de dating d'utiliser d'autres moyens de paiement. En gros, c'est intéressant parce que la semaine dernière, on disait ils vont faire un petit peu ce qu'ils veulent, mais ça contrevient à l'intention de la loi du côté d'Apple, notamment avec le fait qu'ils allaient prélever une commission sur les paiements qui sont faits même en dehors de leur système de paiement à eux. Et bon, ça, on peut le comprendre, mais c'était le montant qui était un petit peu en question. Alors là, les officiels des Pays-Bas n'ont pas parlé spécifiquement de la question de la commission. Peut-être que le montant n'est pas encore connu. Mais en gros, ce qu'ils ont dit, c'est trop compliqué à implémenter, et c'est pas dans l'esprit de la loi. Donc, soyez gentils, vous revoyez votre copie. On vous met une amende, je crois que c'est 5 millions d'euros.
Ça, hein.
C'est ça. Et ça augmente de 5 millions chaque semaine, jusqu'à ce que, et ça peut atteindre 50 millions d'euros jusqu'à ce qu'Apple se mette en accord avec la loi. Donc, c'est pas tant pour... Bon, d'une part, c'est intéressant que les autorités aient dit à Apple « Non, non, mais attendez, c'est pas ce qu'on vous a dit. » Même si, sur le papier, techniquement, en tirant un peu les cheveux, ils étaient en accord, c'était pas en accord avec l'esprit. Et donc, je me demande ce que ça aura comme conséquence sur la question de la commission et du montant de la commission sur les paiements faits en dehors du système de l'App Store. Je pensais que c'était intéressant à mentionner.
Après, ce qu'il faut voir, c'est un peu une tendance un peu générale. En Corée du Sud aussi, ils vont changer de... ils ont été obligés d'ouvrir les paiements extérieurs. Juste pour une... tu parlais de la commission, Google a déjà communiqué, donc ils vont enlever 4 points de... Donc, c'est-à-dire, alors, au lieu de payer 15%, tu vas payer 11% en Corée du Sud. Ouais.
C'est ça, c'est en Corée du Sud, on en parlait la semaine dernière. Et effectivement, c'est... 11 au lieu de 15 ou 26 au lieu de 30, en fonction de temps.
Donc, je pense que ce sera... Bah, en fait, finalement, ça ne va pas changer grand-chose parce que les 4%, c'est ce que tu vas payer en termes de frais utilisés Stripe, par exemple. Ça va te faire 4%. Donc,
pour ça que je le mentionne ici, parce que je me dis, si Google ou Apple essayent de faire le même type d'opération, vu ce qui vient de se passer, à mon avis, ça ne passera pas. Et c'est une possibilité qu'on évoquait la semaine dernière aussi. Moi, je crois que ça ne passera pas. S'ils vont dire, wow, bah, 4% de moins, ça va, c'est pas dans l'esprit du truc. Ça revient aussi cher, voire plus cher, et c'est plus compliqué. Donc...
Je sais pas, franchement, je sais pas, parce que tu vois, quand ils ont été jugés là, avec Epic aux États-Unis, ils ont été donc. Je pense qu'on en a, vous en avez déjà parlé beaucoup, donc, sûr, mais oui. La juge a dit à Apple est quand même, doit toucher une commission parce qu'ils fournissent un service aux développeurs d'application, donc c'est logique qu'ils payent une commission. Alors est-ce que c'est 30%, est-ce que c'est 25%, est-ce que c'est 20%, 15%, elle n'a pas dit, mais l'idée qu'il va falloir toujours payer. Je pense que ça va rester. Après, la question, c'est comment Apple sait ce que chacun doit payer, en fait, puisque ça ne passe plus par Apple.
Je crois que... ça, c'est déclaratif et je pense que c'est... Oui, mais c'est la question du pourcentage de la nouvelle commission. Je crois que, encore une fois, les gens raisonnables seront d'accord sur le fait qu'ils peuvent demander une commission, oui, parce qu'il y a quand même un service qui est fait, comme le disait la juge Gonzalez. Mais... La question du montant de cette commission, si il est si élevé que ça rend la chose plus compliquée de passer par un autre système de paiement, bah ça va à l'encontre de la loi. Et à mon sens, ça passerait pas. Mais bon, écoutez, on verra. En tout cas, ce que viennent de faire les autorités, j'allais dire néo-zélandaises, les autorités des Pays-Bas, me laissent penser que, bah oui, effectivement, ça passerait pas. Ils les rappelleraient à l'ordre.
Mais là, on revient à ce qu'on disait sur le DMA tout à l'heure, mais ils peuvent mettre 50 millions d'euros d'amende. Apple, c'est le maximum qu'ils peuvent lui donner à Apple.
Ouais.
50 millions pour Apple, ils vont pas changer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'incitation financière, enfin, de punition financière pour Apple. Donc, et là où on arrive aux limites en fait, des textes actuels, c'est qu'ils disent, tant pis, on paye 50 millions par an. Si on paye 50 millions par an et que ça nous permet de ne pas changer, parce que ça peut faire boule de neige, en fait, c'est ça le problème. Donc,
alors, c'est quand même 5 millions par semaine.
Jusqu'à 50 millions, maximum.
Jusqu'à 50 millions, ouais. Donc, tu veux dire 50 millions, mais tu crois que ça serait chaque année
C'est pas si c'est chaque année, mais même si c'est chaque année, c'est rien, 50 millions pour Apple. Donc.
Non, c'est sûr. Je crois que ça les ferait réagir quand même pour une question d'image et puis une question de... Tu vois, c'est sûr que s'ils pouvaient demander 6% des revenus mondiaux, ça changerait un petit peu les choses, mais... La chronologie des médias est en train de changer. La chronologie des médias, c'est... Pourquoi je dis la chronologie ? Je ne sais pas. La chronologie des médias, c'est évidemment règle qui veut que les films vont sortir à différents moments sur différentes plateformes. Et on parle dans le rendez-vous tech, on en parle parce que, clairement, c'est un sujet qui touche les services de streaming. Ce que c'était avant, je vais me servir d'un tweet de l'ami Oscar Lemaire. On était à sortie en salle plus 8 mois pour l'arrivée sur Canal+, 36 mois sur Netflix et tous les services de streaming, genre Disney, Prime, et sur les chaînes de télévision classiques, les chaînes de télévision gratuites, on était à 22 mois. Les nouvelles règles disent 6 mois sur Canal+, donc 2 mois de moins, 15 mois ou 17 mois sur les services de streaming. Netflix bénéficie visiblement d'une durée plus courte, sans doute en raison d'investissements plus importants. Donc, 15 mois, on passe à moins de la moitié pour les services de streaming et toujours 22 mois pour les services, pour les chaînes publiques. Enfin, pour les chaînes accessibles gratuitement. Donc, Le gros changement, c'est les 15 à 17 mois, donc à un peu plus d'un an, pour les services de streaming. Moi, je pense que, clairement, c'est une bonne chose. C'est un accord qui doit encore être finalisé, mais qui sera valable pour les 3 prochaines années, qui sera renégocié ensuite. Bon, c'est une question compliquée hein, pour la sauvegarde de la production du cinéma en France. Mais là, on commence à être dans un monde...
Il faut aussi préciser.
Oui, vas-y, bien sûr.
Il faut préciser qu'en échange, Netflix, Disney, Amazon se sont engagés à financer la production française.
Mais c'était déjà ça, le cas.
L'obligation de financement a été votée l'an dernier, il me semble, en fin d'année dernière. Et ça, c'est la deuxième partie de la loi. Mais c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire, on va vous financer la production française et en échange, on vous donne des délais plus courts. Donc, ça a été aussi la façon dont ils ont négocié pour pouvoir faire qu'il y ait plus d'argent pour la production française.
Il y avait déjà de la production française sur les services de streaming. Ils ont un certain pourcentage de production française à avoir sur leurs services. Je ne sais pas comment c'est calculé exactement, mais donc là, en plus, ils vont donner de l'argent à l'industrie du cinéma, en gros, soit en produisant des films, soit en... Ouais. Je crois que on est vraiment dans un monde où, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont les oreilles qui saignent à chaque fois que je dis ça. On ne peut pas avoir ces services-là. Enfin, c'est une protection très artificielle, non pas de la production cinématographique française, ce que je peux comprendre, mais de modèles d'affaires qui n'ont plus lieu d'être dans le monde, un monde où Internet existe et est ce qu'il est. Et en même temps, je me dis, ok, mais est-ce qu'il est possible d'être en concurrence quand on est dans la francophonie avec des sociétés qui ont une taille plus qu'internationale, enfin intersidérale? Je reste un tout petit peu... Évidemment, moi, je veux avoir mes films sur Netflix plus tôt. Enfin, moi, je m'en fous, je suis en Finlande, donc il n'y a pas de chronologie des médias aussi contraignante qu'en France, mais je veux avoir mes films plus tôt sur mon service de streaming, mais en même temps, est-ce que ça ne veut pas dire donner les clés de la production audiovisuelle aux sociétés internationales comme Netflix, Disney, Amazon, etc., quoi. Je ne sais pas. Est-ce qu'il serait possible pour des sociétés comme Canal+, TF1, M6 de rivaliser avec ce genre de boîte?
Clairement non. Mais après, tu vois, aux États-Unis, il n'y a pas de chronologie des médias. Enfin, il y a des règles qui sont négociées par les cinémas eux-mêmes. Donc, les grosses chaînes de cinéma peuvent négocier avec tel studio de cinéma des fenêtres d'exclusivité. Et finalement, moi, je trouve que le système, il n'est pas meilleur, en fait. Là, au moins, il y a des règles qui sont claires. Voilà, c'est 6 mois, c'est 15 mois. Alors, c'est peut-être embêtant pour certaines personnes qui veulent voir leur film plus tôt. Mais au moins, il y a des règles et tout le monde est sur le même pied d'égalité, quoi. Il n'y a pas un gros producteur qui peut négocier des meilleurs accords avec telle chaîne de cinéma et avec telle plateforme. Là, c'est clair. On dit, on protège les cinémas, on protège les ventes de DVD, même si je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. On protège Canal+, aussi les chaînes de télévision payantes, qui financent, il faut bien dire, que les chaînes de télévision françaises ont un pourcentage de chiffre d'affaires obligatoire pour préacheter les films. Donc, si on leur dit, demain, vous allez payer pour le cinéma français, mais votre film, vous n'allez plus avoir en exclusivité, par exemple Canal+, l'avantage de Canal+, c'est qu'ils l'ont avant tout le monde. Si demain, tu payes plus, ils n'ont plus ça, quel est l'intérêt pour Canal+, de payer, en fait? Donc, le cinéma français, il n'y aura plus forcément de cinéma français. Alors après, on peut dire que forcément, ça ne sera pas forcément une grande perte, certains diront ça. Mais moi, je pense que c'est quand même... Il y a un moment où... protéger un peu la culture, et c'est vraiment le côté de l'exception culturelle qui avait été négociée à Bruxelles. Moi, je pense que c'est assez important, finalement.
Oui, il y aurait tout un débat à voir là-dessus. Dans la chatroom, on nous dit « C'est champagne au CNC dans leur hôtel particulier du 16e depuis. » C'est pas faux. J'ai travaillé dans le cinéma, j'ai parfois parlé de la mafia des cahiers des cinémas. Il y a un petit peu de ça. Il y a aussi le fait que, malgré tout ce qu'on dit, et peut-être le fait que le cinéma français produit des films qui ne font pas beaucoup d'argent, le cinéma français existe encore dans le monde, ce qui n'est pas forcément le cas d'industries de pays à taille comparable. Et c'est très certainement parce que cette industrie est férocement protégée par les administrations.
Et comme toutes les règles sur la musique aussi, la chanson, aujourd'hui, la chanson française existe encore, alors que dans d'autres pays, il n'y en a plus quasiment, parce que c'est que des productions anglo-saxonnes.
Ouais. Bon, si on pouvait trouver un moyen de faire ça et d'avoir les films sur Netflix au bout de 4 mois, ça serait quand même pas plus mal, parce qu'au bout d'un moment...
Mais après, tu sais, les films sur Netflix, c'est souvent les producteurs qui ne veulent pas les vendre. Ça arrive souvent aujourd'hui. Si tu regardes le catalogue en France de Netflix, il y a très très peu de films français. Tout le catalogue ancien, il n'est pas sur Netflix, alors qu'il n'est plus au cinéma, quoi. Il pourrait le mettre, c'est juste qu'il n'y a pas d'accord forcément avec Netflix. N'y voit pas forcément un intérêt de payer pour ça aussi.
ce qui est un petit problème. Vous vous souvenez que le contrôle parental et le contrôle parental pour les sites anti-porno a été voté par l'Assemblée et un des effets pervers potentiels, j'utilise pervers avec parcimonie comme terme, mais l'un des effets pourrait être que bah, ça rend plus difficile la vente de PC sans OS. En fait, ce que demande cette loi, c'est que au lancement d'un appareil, il soit affiché l'option d'activation de contrôle parental. Or, les PC, pour qu'il y ait cette option, bah, il faut qu'il y ait un OS quelque part qui vous affiche ça. Alors, pour les appareils mobiles, c'est pas trop problématique. Pour les ordinateurs, bah, les ordinateurs qui sont vendus sans OS inclus, bah, ils peuvent pas faire ça. Alors, c'est clairement une intention, enfin un effet qui n'était pas voulu par la rédaction de la loi. Donc, ils vont sans doute amender ça. Mais c'était intéressant à noter parce que c'était un effet qu'on n'avait pas attendu. Après, il y a tout un débat à avoir sur le contrôle parental lui-même sous cette forme, mais on l'aura peut-être un autre jour. On parlait de musique à l'instant. Est-ce que tu sais combien d'abonnés à des services de streaming de musique il y a dans le monde ?
Je dirais 523,9.
523,9 abonnés, ça ne fait pas beaucoup pour tous les artistes du monde.
Millions, pardon.
D'accord, ok, très bien.
Oui.
Exactement, mais tu as une connaissance du milieu de la tech absolument.
J'ai accès aux notes de l'émission aussi, c'est pour ça.
523,9 millions. Je trouve ça assez intéressant, ça c'est les chiffres de l'année dernière. Hein. On est au deuxième trimestre 2021. Spotify 30%, Apple et Amazon ont 15% chacun, Tencent Music 13%, YouTube Music 8%, etc., etc. On a NetEase, qui est une autre société chinoise là-dedans, 2% pour Deezer, etc. On a quand même 10% d'autres, hein. Il y a des concurrents quelque part. Mais je trouve ça intéressant de noter, ça veut dire que j'imagine qu'essentiellement l'écoute de la musique, au-delà de YouTube avec des clips vidéo qui rapportent par la pub, mais essentiellement les revenus de la musique hors pub se font par ces abonnements et ils sont, j'imagine là encore, en moyenne à une dizaine d'euros. Donc 500 millions, ça fait ben, 5 milliards d'euros ou de dollars de revenus par mois. Pour l'ensemble de l'industrie de la musique, pour les revenus d'abonnement. Je trouve que c'est un chiffre qui est intéressant à avoir en tête. 5 milliards de revenus pour tous les artistes du monde, tous les mois. Alors évidemment, il y a les plus connus qui prennent le plus grand montant. Hein. Et puis, la question que j'aimerais savoir, à laquelle j'aimerais avoir une réponse, c'est combien revient effectivement aux artistes et non pas combien revient aux plateformes, ça je pense qu'on peut imaginer que ça sera autour de 30%, mais plutôt combien revient aux labels et aux producteurs. C'est ça pour moi la grande, grande question, le partage entre artistes et leur maison d'édition. Ça c'est le chiffre qui donnerait une bonne vision de la chose. Mais donc 500 millions, on va dire, c'est pas mal.
Il y a de plus en plus de... Enfin, d'artistes qui s'auto-éditent sur cette plateforme, en fait. Alors après, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, parce qu'il y a tout le côté promotion et choses comme ça, mais c'est aussi possible, en fait. Et c'est vrai que Spotify, de plus en plus, essaye de nouer des deals directement avec les artistes, justement pour couper la part qui revient aux maisons de disques, en fait.
Alors, tu sais, c'est assez intéressant. Oui, bien sûr, tout à fait, tu as raison. Spotify, d'ailleurs, Spotify, entre parenthèses, ils sont un petit peu dans la tourmente avec le podcast de Joe Rogan, qui est visiblement... je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'il est anti-vax, mais il est... parce que je ne l'écoute pas moi-même, mais clairement, il a diffusé des informations fausses sur son podcast, qui est le podcast le plus écouté au monde. Et Spotify l'a payé pour avoir l'exclusivité sur la plateforme. Donc, il y a une grosse question qui se pose sur est-ce qu'ils devraient faire quelque chose ? Ils ont payé très, très cher. On a parlé de 100 millions de dollars, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Bon, ça, c'est Spotify et les podcasts. Mais l'auto-édition, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et j'imagine que pour la musique, c'est quelque chose qui compte aussi. Mais il y avait un article sur le jeu vidéo je vais essayer de vous retrouver, une analyse sur le marché du jeu vidéo qui avait été tweetée par la brillante Chloé Wattier, il y a quelques... Je vais vous le retrouver ici, qui montre le nombre de jeux édités sur la seule plateforme Steam l'année dernière. Il y en avait plus de 11 000, presque 12 000 jeux qui sont sortis sur la plateforme. Alors, l'essentiel d'entre eux, c'est des jeux qui sont auto-édités, qui sont des jeux de très mauvaise qualité. Mais ce qui est intéressant à noter... Attendez que je retrouve ça. C'est la proportion des jeux, enfin le rapport entre la somme qu'ils rapportent et le fait qu'ils aient un éditeur ou non. Et on voit que les 500 plus importants, parmi ceux qui ont vendu plus de 500 copies, qui ont fait plus de 500 ventes, eh ben, l'immense majorité... ont un éditeur ou sont publiés par un éditeur. En gros, ce que ça veut dire, c'est que, bien sûr, les créateurs de contenu indépendants existent, et bon, j'en sais quelque chose, mais dans de nombreux cas, la présence d'un éditeur et de quelqu'un qui va s'occuper du marketing, etc., bah, c'est encore plus important qu'avant, peut-être pas plus, encore plus, mais c'est très important parce que, étant donné que la possibilité de créer est plus facile que dans toute l'histoire du monde. Créer et diffuser, c'est hyper facile. Ben, y a une telle abondance de production qu'on est, pour se faire connaître, on est évidemment obligé d'avoir quelqu'un qui connaît ce métier et qui va le faire. Alors, je disais tout à l'heure, j'aimerais bien savoir combien ils prennent, ces salauds de producteurs. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, évidemment. Mais l'idée de se dire, ben, je vais publier moi-même et puis les gens vont acheter... c'est une illusion. Il faut avoir un moyen de se faire connaître, quoi. C'est clair.
Si t'es déjà connu, en fait, c'est ça le truc.
Ah, si t'es déjà connu, oui, c'est clair. Si tu rapportes déjà des millions et que t'es, je sais pas moi, Billie Eilish, oui, t'as pas besoin clairement d'un éditeur. Bon, elle a des gens qui travaillent pour elle, mais c'est pas tout à fait la même situation, quoi.
Bien sûr.
Quoi d'autre ? Quelques petites news supplémentaires. Tiens, puisque j'évoquais les jeux vidéo, Netflix a déclaré, enfin le COO, le Chief Operating Officer de Netflix a dit « Ouais, on est tout à fait ouvert à l'idée d'avoir des licences de jeux connus ». Et c'est intéressant parce qu'on parle de jeux vidéo hein, pour Netflix. Il se lance dans cette initiative depuis quelques mois. Il n'est pas impossible que jusqu'à ce qu'on ait des jeux de séries Netflix, de séries produites par Netflix, bah pendant quelques années, comme ils l'ont fait peut-être avec la vidéo, ils proposent des jeux dans leur abonnement de séries connues, peut-être même des jeux connus. À quand Assassin's Creed sur Netflix ? Je ne sais pas, mais ça risque d'arriver.
Intéressant, c'est qu'ils ont, un peu changé d'approche parce qu'au début, ils disaient non, c'est pas très, c'est juste... on va faire des petits jeux casual, voilà, c'est un peu en marge. Là, on a l'impression qu'ils mettent un peu plus de moyens, ils vont mettre un peu plus de moyens à rapprocher au fait que l'an dernier, ils ont eu la plus mauvaise année depuis 2015 en termes de nouveaux abonnés, que l'année 2022 va être encore moins bonne. Et donc, ils ont un moment où le marché est saturé, ils n'arrivent plus à recruter suffisamment d'abonnés, aux États-Unis notamment, mais en Europe aussi. Et donc, ils cherchent d'autres moyens pour attirer d'autres personnes. Et donc, le jeu vidéo, a priori, c'est l'une des façons dont ils ont trouvé... Voilà. Et l'autre chose où je suis curieux de voir, c'est sur le sport, en fait. Parce que Netflix, pendant des années, a toujours dit, nous, le sport, ça ne nous intéresse pas, le sport en direct. Hein. Mmh. Ils cartonnent avec la série sur la F1. Ils ont fait une série sur Neymar, je crois, qui est sortie aujourd'hui aussi. Et est-ce qu'ils vont mettre du sport en direct ? Ils ont toujours dit non. Mais là, je pense qu'ils vont peut-être changer d'avis, qu'ils vont peut-être commencer à s'intéresser au sport. Voilà.
C'est tout à fait possible, ouais, c'est une idée intéressante, j'y avais pas pensé, d'autant plus que Amazon a réussi en France à récupérer les droits de... Alors, je veux pas dire de quelle ligue, parce que je vais dire une bêtise. Mais ouais, peut-être que ça pourrait les pousser à ça. Et c'est marrant parce que dans le même temps, on a vu la semaine dernière cataclysme dans l'univers du jeu vidéo. Microsoft qui rachète Activision Blizzard, on en a très longuement parlé dans le rendez-vous jeu, comme vous vous en doutez. C'est vraiment un événement absolument monumental. C'est la plus grosse acquisition de Microsoft de leur histoire. Et ça montre à quel point Activision Blizzard est un énorme... est un énorme acteur du monde du jeu vidéo. Et ça montre à quel point le contenu est le nerf de la guerre. Alors, on le savait déjà dans le domaine de la vidéo avec Netflix qui, et les services de streaming qui vivent par la série du moment qui est cool et qui vous pousse à vous abonner et puis vous restez abonné parce qu'il y en aura bien une en plus dans quelques semaines ou un ou deux mois. Et ben dans le jeu vidéo, c'est la même chose. Et donc, Netflix, et il y a une guerre dans le monde du jeu vidéo qui est sans merci, qui est en train de se mener avec des débuts de consolidation. Et du coup, si Netflix veut être un acteur dans ce domaine aussi du jeu vidéo, ils ne peuvent pas faire juste des petits jeux casual, quoi. Il faut qu'ils aient des gros succès. Et je pense qu'ils le savent. Je pense que, bah, comme ils le disent là à l'instant, ils prennent ça très, très au sérieux. Et ils vont être un acteur, enfin, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent avoir un relais de croissance, comme tu le disais, au niveau de la vidéo, ça baisse un peu. Alors, le sport, c'est cool. Peut-être qu'ils vont faire de l'audio, j'en sais rien. Mais ils semblent se diriger dans le jeu vidéo et ils ne peuvent pas faire ça à moitié, quoi. Donc, peut-être que Netflix rachètera quelqu'un aussi. On l'apprendra dans quelques jours. Je ne sais pas, qui est-ce que
Netflix... C'est une question de moyens. Netflix dépense déjà tellement d'argent sur les contenus vidéo... Il y a un moment, est-ce qu'ils vont dépasser encore plus pour faire du jeu vidéo, enfin, parce que le jeu vidéo ça coûte très cher en fait finalement, hein. Moi je suis curieux de voir, vraiment, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire en fait, et voir s'ils vont vraiment y aller à fond ou pas, quoi, parce que ça va coûter beaucoup d'argent et parce qu'ils ont fait des promesses à Wall Street, enfin bon, ça c'est un peu technique, mais ils ont fait des promesses de générer des flux de trésorerie positifs, voilà, qu'ils ne peuvent pas faire s'ils investissent toujours plus, en fait. Il y a un moment, il faut qu'ils rationalisent un peu leur business model, parce que leur business model, c'est on dépense tellement d'argent pour gagner des abonnés que, voilà, il faut savoir... Donc voilà, voir comment ils vont... s'ils vont vraiment s'y mettre à fond et dépenser beaucoup d'argent, parce qu'on a dit 70 milliards pour Microsoft. Enfin, le moyen plus simple, c'est de racheter un studio, mais c'est des milliards et des milliards de dollars.
Oh, il y en a qui ne coûtent pas très cher. Hein. Il y a un studio, le studio qui avait fait Spider-Man, par exemple, qui est un truc très reconnaissable sur PlayStation, qui s'appelait Insomniac. Il a été racheté pour 300 millions de dollars, même pas 268.
Ouais, mais c'est un studio, donc, c'est un jeu. Je veux dire, c'est un jeu.
Un studio, ça va être, allez, on va être gentil, un jeu tous les deux ou trois ans, quoi. Donc, vrai qu'il en faut plusieurs. Mais ils ont de l'argent chez Netflix. Reed Hastings, je suis sûr.
Ils ont de l'argent, mais il faut voir aussi que l'action. Tiens, je sais pas si. Moi, je suis journaliste business, donc je suis parle de ça, mais l'action, elle a chuté de 50% en deux mois. Donc, il y a un moment où il faut qu'ils aient aussi des gages financiers. Ils sont engagés par rapport à Wall Street à atteindre certains le niveau financier. Ils ne peuvent pas dépenser non plus, même s'ils ont de l'argent.
D'accord. Tu sais combien ils ont de cash on hand, d'argent à la banque disponible tout de
suite ? Pas grand-chose, en fait. En fait, il faut bien voir que Netflix. Netflix a financé toute sa croissance par la dette. Ils sont très endettés, en fait, Netflix. Et ils ont dit, l'an dernier, ils ont dit, ça y est, on ne va plus jamais s'endetter. Donc, ça a été... on est à un moment où on est dans notre... On dégage suffisamment d'argent qu'on n'a plus besoin de s'endetter. Et donc, si demain, ils disent, oui, mais on va s'endetter parce qu'il faut qu'on finance notre croissance, est-ce que ça va être bien reçu ou pas ? Et mine de rien, quand on est une société cotée, ben, y a la pression des actionnaires, même si c'est un peu pour les sociétés de la Silicon Valley, mais il y a quand même une pression des actionnaires. Je disais moins 50% en deux mois, l'action Netflix. Donc,
ça fait mal, oui. Bon, écoute, on verra la suite. Quoi d'autre ? Allez, un dernier sujet pour conclure. Vous savez que l'Irlande, c'est un petit peu le data center de l'Europe. Selon les enquêtes de CNN, aujourd'hui, les centres de données en Irlande utilisent 17% de l'énergie du pays, et ça va continuer à augmenter. D'ici 2030, ça représenterait 27% de l'énergie du pays. Je le mentionne parce qu'on dit souvent, oui, la tech consomme beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie, est-ce que c'est ceci, cela ? Souvent j'ai tendance à dire que c'est une critique un peu facile, et c'est vrai qu'on regarde au global ce que ça consomme, c'est beaucoup moins que d'autres industries. Mais en Irlande spécifiquement, ça semble menacer l'objectif de écologique qu'ils se sont fixé. Aujourd'hui, on est déjà à 17%. Et le pays est dans un cas très particulier parce qu'ils ont attiré une énorme partie de l'industrie tech. Donc, c'est surreprésenté par rapport au reste de l'Europe. Mais ça prend en charge aussi ses dépenses pour le reste de l'Europe, puisqu'elles servent le reste de l'Europe, etc., etc. C'était un point de données que je voulais mentionner. Il faut mettre des éoliennes partout. En Irlande, en plus, c'est un peu venteux, je pense que ça corrigera.
Pas de panneaux solaires, par contre, en Irlande, ça marche pas.
Oui, là, ça marche pas bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir partagé ce moment avec moi. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur Internet si on veut en avoir un petit peu plus de Jérôme Marot ?
Voilà, donc cafetech.fr, voilà ma newsletter quotidienne sur l'actu tech. Et j'ai aussi lancé un podcast quotidien. Alors, c'est 3 minutes pour une actu, un sujet pendant 3 minutes. Ça s'appelle Morning Tech, donc sur toutes les plateformes de podcast préféré, voilà.
Ah, et puis sur Twitter, je suis Jérôme Marin. Une des choses que j'aimerais faire, j'ai pas le temps. Très bien, bravo. Morning Tech, tu dis.
Voilà.
Super. Et Jérôme Marin SF sur Twitter, le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout et notepatrick.com pour tout ce que je fais. J'évoquais le rendez-vous jeu à l'instant. Si vous voulez tous les détails du deal entre Microsoft et Activision, vous pouvez écouter le rendez-vous jeu. Le lien est sur notepatrick.com ou alors vous cherchez rendez-vous jeu sur votre app de podcast. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur patreon.com/rdvtech. Vous pouvez devenir un patriote et avoir tout plein de bonus super cool, en plus du plaisir incroyable de soutenir une émission que vous appréciez. Et vous aurez également l'after show. Et cet after show qu'on va faire aujourd'hui, ça sera donc sur le sujet comment vous faites votre veille tech. Est-ce qu'elle se passe sur Twitter, les réseaux sociaux, uniquement par les podcasts, uniquement avec Patrick et bien sûr Jérôme et sa newsletter formidable. Et est-ce que vous allez, je ne sais pas, sur des sites web, lire avec vos yeux des lettres qui forment des articles ? On va en parler dans un instant pour les gens qui soutiennent l'émission. Et puis pour tous les autres, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie d'avoir été là et à très très vite. Ciao, ciao. Et oui, pour ceux qui ont suivi l'aventure sur Twitter, la douche était très très bonne. 4 ou 5 jours sans eau courante, je peux vous dire que c'est pas marrant. Merci à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.